Afrique.com.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 7 avril 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, John Linden
et Michel Joseph.
Pour commencer, les titres.
Prison à vie pour Blaise Compaoré, le verdict dans l'affaire Thomas Sankara est tombé plus de 35 ans après son assassinat.
Un verdict qui a suscité de nombreuses réactions au Burkina Faso et ailleurs dans le monde.
En Guinée, l'ancien Premier ministre et trois autres ministres ayant servi sous le régime d'Alpha Condé écroués à Conakry.
Au Tchad, Wakitama, plateforme de la société civile et de l'opposition, suspend toute négociation avec la junte au pouvoir.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Écho.
Mais pour l'instant, le journal.
Journée historique au Burkina Faso, c'est la prison à vie pour les principaux assassins de Thomas Sankara. Il s'agit de l'ancien président Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando. Les autres accusés écopent des peines allant de 3 à 20 ans. Il y a aussi des acquittés. C'est l'épilogue d'une affaire qui aurait duré 35 ans de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le tribunal militaire a retenu la prison à perpétuité pour Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et le général Gilbert Diendéré pour l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 autres de ses compagnons le 15 octobre 1987. 14 accusés au total, dont 12 présents, les deux autres, l'ancien président Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, son chef de sécurité au moment des faits, ont été jugés par contumace. L'ancien président vit en exil en Côte d'Ivoire et Kafando est toujours en cavale. Le tribunal a aussi condamné à 20 ans de prison ferme Drissa Sawadogo et Nabos Wende Ouedraogo. L'accusé Yamba Élisée Ilboudo écope de 11 ans de prison ferme. Jean-Pierre Palme, DJPP, colonel-major de gendarmerie et ancien ministre des Sports de Blaise Compaoré, écope 10 ans de prison ferme ainsi que Thibaut Ouedraogo. Albert Belemilga et Jakali Adémé sont condamnés à 5 ans de prison avec sursis. Bossobé Traoré, les médecins Alidou Diébré et Amadou Kafando ont été acquittés. D'après le tribunal, les parties qui souhaitent faire appel ont 15 jours pour le faire. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Justice encore, celle militaire malienne a annoncé mercredi soir l'ouverture d'investigations sur les récents événements de Moura dans le centre du pays, où des témoignages font état de l'exécution en masse des civils par des soldats maliens et des combattants étrangers. Des enquêtes ont été ouvertes par la gendarmerie nationale sur instruction du ministère de la Défense et des anciens combattants afin de faire toute la lumière sur ces allégations, a écrit dans un communiqué le procureur près du tribunal militaire de Mopti, grande ville proche de Moura.
La Cour européenne de justice a rendu un arrêt en faveur de la famille de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, confirmant la levée du gel de ses avoirs. Les sanctions avaient été instaurées par l'Union européenne après le soulèvement populaire qui a mené en 2011 à la chute du régime Moubarak. Elles consistaient en un gel des avoirs de l'ex-président, sa femme Suzanne, leur fils Ala et Gamal, ainsi que les épouses de ceux-ci. Hosni Moubarak, poussé et décédé le 25 février 2020. Il avait gouverné l'Égypte d'une main de fer pendant 3 décennies.
En Guinée, l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana et les anciens ministres de la Défense Mohamed Diané, de l'Environnement Oyé-Guilavogui et des hydrocarbures Zakaria Koulibaly ont été inculpés pour détournement de fonds publics et écroués à Conakry. Le point avec Nathalie Barge.
Ces ministres qui ont servi sous le régime d'Alpha Condé seront jugés lundi par une chambre de la Cour de répression des infractions économiques et financières créée par les militaires au pouvoir, indiqué leur avocat Salifou Béavogui. Ils ont été interrogés pendant 3 jours avant d'être embarqués à la Krief dans un véhicule de gendarmerie escorté de pick-up. Ibrahima Kassori Fofana est mis en cause alors qu'il vient d'être désigné à la tête du RPG, l'ancien parti au pouvoir. En février, l'ex-ministre du budget Ismaël Diou-Baté a été écroué pour détournement de fonds publics et corruption présumée et il attend d'être jugé. Au même moment, l'opposant Sélou Dalein Diallo a été visé par une enquête pour corruption et enrichissement illicite lors de la vente des biens de la défunte compagnie aérienne nationale en 2002 alors qu'il était ministre des Transports. Diallo et l'autre opposant, Sidya Touré, ont été chassés de leur domicile au nom d'une politique de récupération de biens dont la junte dit qu'ils appartiennent à l'État. Le domicile de Sélouda Diallo a été rasé en mars. Des dizaines de partis accusent les autorités militaires de se servir de la CRIEF pour disqualifier certains leaders politiques.
Au Tchad, la principale plateforme de la société civile et de l'opposition a annoncé hier suspendre toute négociation avec la junte au pouvoir et son gouvernement. Ce retrait intervient à un mois d'un grand dialogue prévu avec l'opposition et les groupes armés. Les détails avec Eric Manirakiza.
Wakit Tama annonce la suspension de toute négociation relative au dialogue avec la junte et son gouvernement. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de cette plateforme reproche notamment au régime militaire l'enlisement du pré-dialogue de Doha avec les groupes armés, la prédominance de violences au sein des forces de défense et de sécurité et les violences systématiques des droits humains. Cette semaine, le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, un groupe rebelle actif dans le sud de la Libye et le nord du Tchad, a décidé de se retirer du pré-dialogue, évoquant dans un communiqué ce qu'il qualifie d'agenda caché de la junte militaire. Ce pré-dialogue de Doha était initialement prévu le 27 février, mais a été repoussé à la dernière minute au 13 mars. L'un des objectifs affichés du fils général de Mahamat Idriss Déby Itno, autoproclamé président à la mort de son père, et d'amener les groupes armés autour d'un dialogue dit « inclusif » qui a déjà été plusieurs fois reporté, mais prévu le 10 mai, malgré toutes les incertitudes.
En RDC, les combats entre l'armée et le mouvement rebelle M23 ont repris mercredi dans la province du Nord Kivu après une semaine d'accalmie. Les précisions avec Mouamadou Oumfa.
L'armée congolaise est venue nous attaquer, nous avons riposté vigoureusement, a déclaré dans un message vidéo le porte-parole du M23, Willy Nguma, en affirmant que les FARDC, forces armées de la RDC, étaient en débandade et avaient pris la poudre des scampettes. Le M23 a réussi à repousser l'armée côté est à Runyoni, a confirmé un témoin. La population continue à fuir les villages, a-t-il ajouté. Nous avons l'ennemi sur notre territoire, c'est normal qu'on les combatte jusqu'à les pousser dehors, commentait dès le matin le colonel Muhindo Luanzo, directeur de cabinet de l'administrateur militaire du territoire. Selon lui, les rebelles ont fui la colline de Bougoussa, située non loin de la route principale reliant Goma, chef-lieu du Nord Kivu à la frontière ougandaise, avant que l'armée n'arrive sur la zone. Les combats continuent, l'armée a récupéré plusieurs villages dont Bougoussa, Diziza, Cheya, précisé en fin d'après-midi Damien Sebouzanane, président de la société civile locale. Selon lui, la résistance s'observe seulement à Runyoni et Tianzu, secteur où 8 casques bleus sont morts le 29 mars dans le crash encore inexpliqué de leur hélicoptère. Les combats se poursuivaient en fin de journée.
Répondant à l'appel du président du Niger, Mohamed Bazoum, qui a plaidé pour une augmentation significative et urgente des financements internationaux, plusieurs pays ont promis mercredi d'augmenter leur aide financière aux pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest pour lutter contre l'aggravation de la famine, ont-ils annoncé mercredi lors d'une réunion à l'OCDE. Les États-Unis promettent ainsi 311 millions de dollars supplémentaires, 82 millions de dollars pour le Canada et 166 millions d'euros en 2002 pour la France. Les sécheresses extrêmes, l'épidémie de COVID-19 et maintenant la guerre en Ukraine sont autant de facteurs qui exacerbent les risques de famine au Sahel et en Afrique de l'Ouest, ont alerté les spécialistes réunis à l'OCDE.
Les candidats à l'élection présidentielle en France vont se démultiplier ce jeudi, avant-dernier jour de campagne. Pour les 12 prétendants à l'Élysée, deux grands défis s'imposent avant la fin officielle de la campagne vendredi à minuit. mobiliser leurs partisans alors que l'abstention pourrait flirter ou dépasser les records de 2002, soit 28,4%, et aller chercher les nombreux indécis qui représentent un tiers des personnes sûres d'aller voter.
L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est avec Claire Morin-Gibourg.
La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, lance un programme de financement du commerce destiné à l'ajustement des pays d'Afrique face à la crise ukrainienne. Le programme de ligne de crédit mis en place par la banque est doté d'un montant de 4 milliards de dollars. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a notamment eu des répercussions sur les économies africaines, en particulier celles qui dépendent fortement des importations de céréales, d'engrais et de carburant. Le coût du fret a doublé, triplé ou quadruplé sur le plan international pendant la période du Covid-19, a affirmé le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yen Sié, mardi lors d'une rencontre avec une délégation du Conseil national de la consommation ivoirien. L'organe consultatif cherchait à comprendre l'impact des frais portuaires sur les coûts finaux des produits. APA News relate que M. Sié s'est défendu, affirmant que les tarifs du port n'avaient pas augmenté depuis 2010. Les marchés boursiers ont reculé fortement hier, anticipant une récession économique aux États-Unis du fait d'un resserrement monétaire. Les opérateurs européens sont inquiets des nouvelles sanctions contre la Russie concernant le charbon et les investissements dans le pays.
Présent l'actualité sportive qui nous est présentée ce matin par Nanit Talani.
Bonjour à tous. La FECOFA, la Fédération congolaise de football, a lancé mardi un appel à candidature pour le poste d'entraîneur principal et ceux de membres du staff technique pour la sélection nationale A des Léopards. La FECOFA veut remplacer Jean-Florent Ibengué, qui ne pouvait plus occuper ce poste après s'être engagé avec le club marocain de Renaissance Sportive Berkane en juin 2021. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 13 avril aux techniciens congolais, détenteurs soit de la licence CAF Pro, soit de la licence ACAF, soit de toute autre licence équivalente. Les candidats doivent également avoir une expérience d'au moins 5 ans, justifiée par de bons résultats en équipe nationale ou dans une équipe de première division. Au Cameroun, le championnat de première division de football féminin, la Guinness Super League, débute samedi 16 avril avec 12 clubs en lice. La phase aller se déroulera du 16 avril au 11 juin et les matchs retour débuteront le 18 juin. Le championnat prendra fin le 6 août. Le match d'ouverture mettra aux prises le champion en titre Awa FC à Louvre Minprof. Pour cette compétition, les joueuses gagneront 76 € par mois contre 38 auparavant. L'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne et Rennes, Gelson Fernandez, suisse d'origine capverdienne, a été nommé hier nouveau directeur général de la division Association des membres pour l'Afrique de la FIFA, sur décision de Gianni Infantino, président de l'instance dirigeante du football mondial. L'ancien footballeur de 35 ans a réagi en affirmant « C'est un grand honneur et je suis très fier de rejoindre la FIFA. Quand on est africain, comme moi, on se doit d'accepter une proposition comme celle qui m'a été faite, car c'est le meilleur moyen de rendre à l'Afrique ce qu'elle m'a donné. Cette mission me permet de revenir à mes racines, d'exprimer ma gratitude à ce continent et de tout donner pour le football africain. Le continent africain a un potentiel incroyable. Le football peut changer la vie d'un grand nombre de personnes. Son pouvoir est immense. J'entends bien y consacrer toute mon énergie. C'est un défi de taille que je relève avec beaucoup de fierté. » Pour terminer, Greenpeace France demande au directeur de la Coupe du Monde de rugby 2023, qui aura lieu en France, d'exclure Total Energy des sponsors de la compétition. Greenpeace explique avoir été en contact l'an dernier avec l'organisation qui voulait faire un événement respectueux de l'environnement et engagé pour le climat. L'ONG estime que le sponsoring de Total Energy est une véritable aberration à l'heure de l'urgence climatique, car la majeure pétro-gazière maintient ses activités en Russie.
Merci Nanit Talani et on vous retrouve demain matin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, John Linden. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour et on commence par le Burkina Faso, où les trois principaux accusés dans l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando, ont été condamnés à la prison à vie. Les réactions à Ouagadougou avec notre correspondant Lamine Traoré.
C'est la fin d'une affaire qui aura duré 35 ans. À l'annonce du verdict hier, c'était un soulagement pour les familles de Thomas Sankara et de 12 autres de ses compagnons. Luc Damiba, secrétaire général du Comité international mémorial Thomas Sankara.
On a le verdict aujourd'hui, 35 ans après, 25 ans de procédure, 110 témoins, 6 mois de procès. Enfin, on est soulagé, on est vraiment soulagé. C'est une victoire d'étape pour nous, pour les familles, pour tous ceux qui sont épris de l'idéal Sankara, parce qu'au moins on peut aller vers une réhabilitation politique, vers un aspect de reconnaître que Sankara voulait le bien du pays, le bien d'Afrique, et c'est important pour aussi l'histoire, parce que les coups d'État sont désormais proscrits.
Mouchbila Sankara, ancien compagnon de Thomas Sankara, a été l'ambassadeur du Burkina à Tripoli sous Sankara.
Moi, j'ai été soulagé le jour de l'ouverture de ce procès, parce que Thomas, ce n'est pas la personne physique, c'est l'image, la morale. Il s'est battu pour sa dignité, son honneur.
Osibi Johan, musicien et militant de la société civile.
Ce verdict vient montrer que la vérité finit par triompher sur le mensonge. Ils doivent remercier le Seigneur, parce que si c'était la peine de mort, c'est ce qu'ils devaient prendre. Mais aujourd'hui, la peine de mort étant abolie, je pense qu'à perpétuité, nous sommes au Burkina, tout est possible, c'est la justice à parler, les hommes parleront après. Mais en attendant, c'est une vérité qui a éclaté.
Mais certains ne partagent pas ce verdict. Mamadou Bamoro est un partisan du général Gilbert Diendéré.
C'est dommage. Le verdict est très lourd. Vu le contexte dans lequel le pays est actuellement, on n'avait pas besoin d'une telle condamnation à vie. Bon. D'une part, c'est comme si ce monsieur n'a rien fait même pour cette nation burkinabé. Le général Gilbert Diendéré, bien sûr. Le verdict, il est vraiment lourd. Si quelqu'un peut purger une peine à la place d'un condamné, moi, je me porte volontiers à aller purger la peine pour ce monsieur. Parce que je sais que ce monsieur peut contribuer pour que le pays retrouve sa sécurité d'attente.
Le tribunal a aussi prononcé des peines allant de 3 à 20 ans de prison. Trois accusés ont été acquittés. Toutes les parties ont 15 jours pour faire appel. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando sont donc condamnés à vie dans le procès de l'assassinat en 1997 de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. Monsieur Compaoré et Kafando sont hors du Burkina Faso, tandis que le général Diendéré purge déjà une peine de 20 ans de prison liée à une tentative de coup d'État en 2015. Pour une réaction, Abdourahmane Dia a joint à Montréal Aziz Solomon Fall, coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Sankara.
Bah écoutez, ils ont eu la perpétuité. Nous avons déjà donné 25 ans de nos vies à cette question-là. Donc c'est sûr qu'on vit ça de façon assez mitigée, paradoxale. On n'est pas vraiment dans l'esprit victorieux de la célébration, compte tenu déjà de la situation dramatique dans laquelle le Burkina Faso, le Mali et la sous-région est plongée par le djihadisme, le déplacement des populations. Donc il y a une certaine décence, je crois, à observer. Mais la justice a dit le droit. Mais pour nous, ce procès n'est que l'aboutissement de plus de 25 ans d'efforts. Il y a eu plusieurs procès où nous nous sommes battus d'abord contre l'État parti qui ne voulait pas faire entendre le droit. Il faut rappeler que l'ancien président Compaoré était à l'époque ministre de la Justice lorsqu'il fait assassiner son camarade. Et donc, non seulement ils ont entravé le droit, nous les avons amenés en cour internationale devant le Comité des Nations Unies, où nous avons gagné des droits pour la veuve et ses enfants-là. Et bon, c'est à la suite de cette longue période de mobilisation qu'une autre génération qui n'a pas connu nécessairement le sankarisme a parachevé ses efforts à renverser le pouvoir Compaoré et que a été permis l'ouverture du procès et le résultat que vous avez.
Alors Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando sont condamnés par contumace. Pensez-vous qu'ils vont un jour purger leur peine?
Bon, comme vous le savez, ils sont soutenus. Nous, nous nous battons contre une nébuleuse. Cette nébuleuse-là, c'est la France-Afrique. C'est elle qui la protège. Ils sont actuellement en Côte d'Ivoire, pays qui fait partie de ce processus-là. Et donc, ils ont été exfiltrés par des intérêts français. Ils sont protégés par eux. Donc, vous avez un changement de la donne. La France n'a plus... plus le même pouvoir dans la sous-région. Je ne veux pas dire qu'elle est finie, mais une certaine France-Afrique est en train d'être tournée. J'espère qu'ils purgeront un jour leur peine et qu'ils auront le courage de se rendre. Sinon, ils vivront traqués et cachés et ils peuvent être arrêtés dans n'importe quel aéroport du monde.
Donc, quel sera le prochain combat pour vous?
Alors, comme vous le savez, le juge... qui était en charge de la procédure a fait une disjonction, donc il y a un volet international à ce complot, parce que ce complot n'est pas qu'un complot local. Là, on a puni des agents locaux, mais en fait, ce complot a une dimension internationale. Il y avait d'autres commanditaires et il y a des intérêts qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont trempé dans ce coup-là. Et il est possible que les choses se prolongent. Actuellement, les parties civiles vont devoir probablement proposer aussi des aménagements. Eux-mêmes font peut-être faire appel de cette décision, donc hélas, ce n'est pas encore une page qui est complètement tournée.
Aziz Salman Fall, coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Sankara.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Dans les régions reculées du nord de la Côte d'Ivoire, des dozos chasseurs traditionnels se sont constitués en milices d'autodéfense. Des groupes djihadistes basés au Burkina Faso et au Mali voisin ont mené plusieurs attaques dans les pays de ces deux dernières années. Henry Wilkins a rencontré des membres de la communauté dozo à Korogo. Le récit est de Nathalie Barge.
Les groupes djihadistes actifs au Burkina Faso et au Mali ont franchi la frontière pour mener des attaques et recruter dans le nord de la Côte d'Ivoire. Certains analystes estiment que les conditions ici sont les mêmes que dans les deux pays voisins, comme le manque de sécurité de l'État, l'absence de développement et les tensions intercommunautaires. Sekongo, milicien d'Ozo, dit que la violence et le crime ont conduit à l'organisation de milices qui renforcent la sécurité.
Les hauts pouvoirs, la police, les gendarmeries, on travaille ensemble en tout cas. Même jusqu'à présent, nous suivons souvent, ils nous appellent, bon, c'est comme ça on veut travailler, bon, venez en faire ensemble.
Au Burkina Faso et au Mali, des milices ont également émergé dans des zones envahies par des groupes terroristes où le contrôle de l'État est faible. Bakary Ouattara est le chef des Dozo à Korogo, ville du nord de la Côte d'Ivoire.
C'est vrai, l'État a les forces régaliennes. Et malgré que ces forces régaliennes sont là, l'État n'a pas les moyens efficaces pour installer ces forces régaliennes dans tous nos petits campements. Il y a des campements qui sont reculés de plus de 50 km, de 60 km, de 25 km de la gendarmerie, soit du commissariat. Imaginez-vous si cette population est attaquée.
En plus des questions de sécurité, les chefs traditionnels du nord du pays arbitrent également les différends au sein de la communauté. Issa Koulibaly, un chef traditionnel de Korogo.
Mais quand il y a un problème qui les dépasse, il recourt à moi. Il dépend de moi.
Monsieur Koulibaly affirme que le développement dans le nord s'est amélioré ces dernières années, ce qui n'est pas vraiment le cas selon des habitants des zones rurales. Aussi, la tension entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs est source de conflits, comme dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Arthur Ranga, historien militaire à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui conseille le gouvernement sur la situation sécuritaire dans le Nord, est plus optimiste.
Il y a une inquiétude, mais il n'y a pas encore d'exode ou de déplacés, parce que en même temps, jusqu'à présent, le gouvernement arrive à donner une bonne réponse militaire, tente aussi de construire une réponse sociale.
Contrairement au sud de la Côte d'Ivoire, le développement et l'état de droit peinent à atteindre le nord du pays, aujourd'hui exposé à l'insécurité. Sur cette question, le ministère ivoirien de la Sécurité n'a pas répondu à une demande d'interview de la Voix de l'Amérique.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, le dialogue avec les groupes armés est-il la solution à la crise sécuritaire au Sahel et dans d'autres régions du continent minées par des conflits? Le président de la transition Burkinabé, le lieutenant-colonel Damiba, a en tout cas annoncé la création de comités locaux de dialogue avec les groupes armés djihadistes. Parler avec ces groupes armés sont-ils inévitables? Quelles approches dans ces discussions? Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universelle sur VOAfrique.com.
Au Burundi, le carburant est devenu une denrée très rare. À Bujumbura, la capitale économique, des femmes et des hommes passent la nuit dans les stations pour essayer de s'approvisionner en carburant. Reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
À la station Interpétrole dans la zone de Jabé, dans la commune urbaine de Moa, sur le boulevard du Peuple Murundi, de longues files de voitures ordinaires, taxis et des camions étaient visibles toute la journée d'hier. Tous veulent du carburant. Cette maman a passé la nuit devant la station Libajaz Oil. Elle raconte sa nuit cauchemardesque, loin de ses enfants, dont certains en très bas âge.
Depuis avant-hier, j'étais à cette station à la recherche du carburant. On nous disait que le carburant n'est pas disponible sans nous donner beaucoup plus de précisions. Toute la journée d'hier, j'étais là. Et sans aucune explication, nous sommes vraiment fatigués. Nous demandons aux autorités de nous faciliter la tâche en disponibilisant le carburant nécessaire, même si les causes de cette situation ne sont pas expliquées.
Juma Moussi, lui, est chauffeur qui travaille souvent dans les pays de la sous-région comme la Tanzanie et le Kenya. Il vient de passer plusieurs jours à la recherche du carburant.
J'ai passé toute la nuit, je n'ai même pas dormi à la maison, tenté de chercher le carburant. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore servi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais demander au gouvernement de nous servir, comment on peut faire. Je vais faire un voyage au Kenya. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore trouvé la solution.
Le Kenya, le poumon économique de l'Afrique de l'Est, il doit se rendre, subit aussi un énorme manque de carburant avec de longues files d'attente devant les stations. Samima Najamari est gérant d'une station-service dans la capitale burundaise. Il affirme à VOA Afrique qu'il rationne et donne le carburant uniquement à ceux qui ont des bons de commande.
En premier lieu, je suis gérant d'une station-service qui sert des carburants. Dans l'entretemps, en premier lieu, ceux qui doivent être servis sont ceux qui ont des bons, notamment des ministères qu'on collabore ensemble, notamment ceux qui sont proches de l'État. Sinon, ce qui reste, on doit dispatcher à gauche, à droite, c'est les particuliers qui ont des voitures.
La guerre en Ukraine est venue faire empirer la situation. Les responsables du ministère du Commerce et de l'Industrie ont indiqué que les grands problèmes du Burundi, même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer au micro de VOA Afrique, est dans le manque de devises que subit le pays depuis un certain temps. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, avec vous ce jeudi, Nani de Talani, au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné mercredi à la prison à perpétuité les trois principaux impliqués dans l'assassinat de Thomas Sankara, l'ex-président Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire, Gilbert Djingéré, un des chefs de l'armée à l'époque, et Yacine Kafando, toujours en cavale. Êtes-vous satisfait de ce procès? Votre avis nous intéresse. Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct. À votre avis, c'est du lundi au vendredi à 18h05, temps universel sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VO Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro de présentation, John Linden et Michel Joseph, qui assuraient également la mise en onde. Kelvin Fowler était à la console. Nos programmes se poursuivent. Rendez-vous sur notre site internet VO Afrique.